Donc nous étions dans le livre des juges et nous étions en train de voir les différentes nations qui ont été problématiques hein, pour le peuple d'Israël. Nous avions déjà vu le juge Othniel et nous avions la semaine dernière commencé à voir ce juge du nom de Ehud, et de voir comment l'Éternel a employé une personne qui, de visu, n'avait pas forcément ce qu'il fallait hein, pour être ce héros, pour délivrer son peuple, hein, contrairement à Othniel qui venait de cette famille hein, assez renommée, qui avait déjà fait ses preuves en termes militaires. Ici, nous avons donc cet homme Ehud qui va utiliser un stratagème pour délivrer le peuple d'Israël. Et c'est vrai que quand on lit ce passage, comme on va en lire beaucoup dans les livres des juges, il y a quand même des méthodes qui nous font soulever un peu un sourcil et se demander quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a agi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et dans ce passage de Juges, chapitre 3, effectivement, il y a deux questions qu'il faut soulever, deux questions d'ordre moral par rapport à la stratégie employée par Ehud. Et il y a donc ben, l'assassinat, hein, l'assassinat du roi Eglon, et puis il y a aussi le mensonge. Et il faut se poser la question parce que effectivement, beaucoup de gens vont souligner cela et attaquer la Bible, attaquer Dieu, hein, par rapport à ces questions-là. Alors, à travers l'Ancien Testament, il est certain que on voit beaucoup de violence. On voit beaucoup de violence. Et il y a une règle importante à se rappeler, hein, quand on étudie déjà l'histoire, hein, c'est de regarder à l'histoire non pas avec un regard de juge, nous, avec notre pensée du 21e siècle, etc., et de regarder ce qui se pratiquait autrefois, et de dire ça c'était mauvais, ça c'était bon, et d'essayer de voir aussi les choses dans leur contexte. Mais une des règles qu'il faut toujours appliquer par rapport aux Écritures, c'est de faire cette différence entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. C'est-à-dire ce que les gens ont fait par rapport à ce que Dieu a demandé de faire. Hein, lorsque les auteurs nous décrivent des agissements non ordonnés par l'Éternel, hein, mais résultant de décisions humaines, ça c'est quelque chose qui est descriptif. Ce n'est pas parce que la Bible en parle, hein, que la Bible ou que Dieu approuve de ces choses. Cependant, certaines actions violentes ont été effectivement ordonnées par l'Éternel. Et il convient de souligner ces choses-là et d'essayer de comprendre pourquoi hein, ça s'est produit, parce que beaucoup de gens ont du mal à accepter une telle violence. Parce qu'on a cette idée du bon Dieu, n'est-ce pas? Hein, c'est une des choses qu'on souligne souvent par rapport à cette question-là, c'est le fait que les gens ne voient en Dieu que ce qu'ils ne veulent voir. Ils veulent voir le Dieu bon, ils veulent voir le Dieu aimant, mais ils ne veulent surtout pas voir le Dieu saint et encore moins le Dieu de justice. Le fait que Dieu ait ordonné des massacres de nations entières dans l'Ancien Testament, fait l'objet de vives critiques hein, de la part des opposants au christianisme depuis longtemps. Hein, l'existence de cette violence dans l'Ancien Testament, elle est indéniable. Mais la question, c'est vraiment de savoir si cette violence, elle est justifiable, approuvée par Dieu. De nombreux athées, comme Richard Dawkins, qui qualifie le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu vengeur, assoiffé de sang et adepte de nettoyage ethnique, ça c'est sa perspective à lui, datée du 21e siècle. Le journaliste Christopher Hitchens déplore que l'Ancien Testament autorise des massacres aveugles de populations. D'autres critiques du christianisme ont formulé des accusations similaires, accusant Dieu de crimes contre l'humanité. Mais est-ce que ces critiques sont fondées? Le Dieu de l'Ancien Testament est-il ce monstre que les athées veulent décrire lorsqu'ils lisent les Écritures, hein, qui ordonne arbitrairement ce génocide d'hommes, de femmes, d'enfants innocents? Et je fais bien de mettre, encore une fois, ces guillemets de innocents, parce que ça va faire partie, hein, de la réponse à ces questions-là. La réaction, hein, de Dieu face au péché des Cananéens, des Amalécites, est-ce que c'était tout simplement du nettoyage ethnique, ou bien Dieu avait-il des raisons moralement valables d'ordonner la destruction de ces nations? On a déjà mentionné dans nos études, hein, sur le livre des Juges, que les raisons pour lesquelles Dieu, hein, demanda à Israël de chasser de la terre promise les peuples idolâtres, on avait déjà vu ces choses-là, mais une connaissance même élémentaire de la culture cananéenne de l'époque, ben, révèle un peuple pervers, hein, montre des valeurs morales qui, même aujourd'hui, les gens, hein, ils voient ici le massacre de ces peuples-là, mais s'ils regardaient à ce que ces peuples pratiquaient, est-ce qu'ils auraient le même jugement vis-à-vis de ces peuples que eux veulent apporter contre Dieu? Les Cananéens étaient un peuple brutal, agressif, qui pratiquait la bestialité, l'inceste et même les sacrifices d'enfants. Les actes sexuels déviants étaient monnaie courante. Le péché des Cananéens était si répugnant que Dieu avait dit que le pays lui-même vomirait ses habitants. C'est l'image que il faut vraiment que ça sorte. C'est quelque chose qui ne peut pas rester. Hein, tous ceux d'entre nous qui ont déjà été malades et ayant dû avoir à rendre, à vomir, on sait que c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que si on laisse ça à l'intérieur du corps, ça va causer bien plus de dégâts. Cette destruction, ces destructions que nous voyons dans l'Ancien Testament par rapport à ces peuples, il faut comprendre que cela visait davantage la religion, si vous voulez, que le peuple lui-même. Donc d'accuser, hein, de nettoyage ethnique est quelque chose de vraiment faux. Et même quand je emploie ce mot religion, hein, c'est vraiment dans un sens, on va dire, assez large, parce que ce qui est vraiment question ici, ce sont les péchés de ces peuples. Ce jugement n'était pas motivé par des considérations ethniques, mais par les pratiques pécheresses de ces peuples. Comprenons bien que, comme tous les êtres humains, aux yeux de Dieu, déjà, nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. D'accord? Mais l'amour de Dieu pour l'être humain a toujours été constant, n'est-ce pas? Il n'a pas changé. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour qu'il nous manifeste aujourd'hui, c'est ce même amour qu'il manifestait il y a des siècles de cela. Et comme tous les êtres humains, vis-à-vis de Dieu, les Cananéens avaient la possibilité de se repentir. Ils étaient conscients de leurs actes. Ils étaient conscients du châtiment du jugement que Dieu avait prononcé contre eux. Et ils avaient toute l'opportunité pour le faire. Lorsque Dieu voit la repentance dans le cœur d'un être humain, Dieu pardonne. Dieu enlève le châtiment prévu. L'exemple des habitants de Ninive, parce que c'est tout à fait comparable en termes d'idolâtrie, etc. Les habitants de Ninive, lorsque Dieu avait envoyé Jonas, hein, le prophète récalcitrant, qui finalement, bon, après plusieurs péripéties, arrive à la ville de Ninive et prêche le jugement de Dieu contre cette ville, qu'est-ce qui se passe? La ville entière se repent. Wow! Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu applique sa condamnation sur cette ville? Non. Dieu pardonne. C'est un Dieu d'amour et de grâce. C'est un Dieu qui veut voir le méchant se détourner de ses péchés. Il ne veut pas le voir mourir dans ses péchés. On a l'exemple aussi de Rahab. Hein, le genre de vie qu'elle menait, c'était une prostituée. Et elle a fini par trouver grâce devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle a agi par la foi, n'est-ce pas? Et donc on a plusieurs exemples comme cela de personnes qui, aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables et ils avaient commis des péchés qu'on considérait comme infâmes, atroces, etc. Mais que lorsque la vérité les touche et que la repentance éclot dans leur cœur, la grâce de Dieu se dévoile. Outre le traitement des péchés nationaux, Dieu s'est servi de la conquête de Canaan aussi pour créer un contexte particulier, un contexte spirituel, un contexte historique, lui permettant plus tard aussi de présenter au monde le Messie. le Sauveur. Hein, ce Messie qui apporterait le salut non seulement à Israël, mais à qui d'autre? À tous. C'est pas un salut qui est réservé seulement au peuple d'Israël, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Il est important de rappeler aussi que Dieu a accordé aux Cananéens un temps plus que suffisant pour se repentir de leurs mauvaises actions. Parce que ce jugement que Dieu avait prononcé contre eux, eh bien, était vieux de 400 ans. Ils avaient eu grande opportunité de changer, n'est-ce pas? Mais là, ça me fait encore aussi penser au fait que nous avons un Dieu qui est patient, qui veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. C'est ce que l'on voit ici dans l'Ancien Testament. C'est ce Dieu patient, ce Dieu de grâce. L'Épître aux Hébreux nous apprend même que les Cananéens étaient une nation rebelle. Hein, et donc c'est vraiment cet aspect de culpabilité morale vis-à-vis du péché que Dieu a condamné et a apporté une sanction. Il faut aussi voir que ces Cananéens étaient conscients de la puissance de Dieu, comme on le voit dans le livre de Josué, hein, au chapitre 2 ou au chapitre 9. Et ils auraient eux aussi pu avoir l'occasion de se repentir s'ils l'avaient désiré. La femme Rahab avait compris ce que Dieu avait fait pour Israël. Les autres auraient dû le comprendre aussi, auraient pu avoir la même approche, la placer cette même foi en Dieu, pas une foi parfaite, mais une foi suffisante pour que Dieu fasse grâce. Mais alors pourquoi Dieu aussi a-t-il ordonné aux Israélites de dévouer par interdit les non-combattants? On sait que, bon, en période de guerre, dans ce genre de contexte-là, on comprend aisément que ben, les soldats, ça meurt au combat. Et aujourd'hui, bon, dans notre mentalité du 21e siècle, lorsqu'il y a des guerres, on veut absolument qu'il n'y ait aucune perte civile. Chose qui est impossible. Ça arrivera toujours. Mais voilà, on a cette mentalité-là, alors que, bah, à cette époque-là, et même jusque, bon, il y a quelques décennies de cela, hein, dans le monde, on comprenait bien que quand il y a une guerre, il y aura des pertes civiles, mais c'est la guerre, et il faut la gagner, cette guerre. Et beaucoup de pays, hein, ont mis les moyens et sont allés au-delà de ce qui était même prévu pour pouvoir apporter cette victoire. Mais alors pourquoi? Pourquoi les Israélites devaient-ils dévouer par interdit toute la population, pas simplement les soldats? Là encore, il est important de rappeler que même si les femmes cananéennes n'ont pas combattu, ça ne signifie pas qu'elles n'étaient pas coupables spirituellement vis-à-vis de Dieu. Elle n'était pas innocente. Dans Nombre chapitre 25, versets 1 à 3, nous lisons ceci. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous avez noté? Comment ça s'est produit? Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, et ensuite elles les invitèrent à sacrifier aux idoles. Donc on ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas innocentes. On ne peut pas dire que même au regard que l'on peut porter, nous, hein, du 21e siècle sur les faits historiques, on ne peut pas non plus d'une manière spirituelle, regarder à la vie de ces peuples et dire que tout était OK. Ils ne méritaient pas de mourir. Mais il y a une question encore plus difficile qui demeure ici. Qu'en est-il des enfants? Et j'avoue, ce n'est pas une question facile à répondre. Mais là encore, il y a plusieurs éléments qu'il faut garder à l'esprit, hein, prendre en compte. C'est que, encore une fois, aucun être humain est innocent. Nous possédons tous une nature pécheresse. Et c'est cette nature pécheresse qui nous pousse à agir contre la sainteté de Dieu, donc à suivre le péché. Et à partir du moment où nous avons commis un péché, comme la parole nous le rappelle, Celui qui se rend coupable d'une loi se rend coupable de toute la loi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai menti, je serai qualifié de menteur. Une fois que quelqu'un a tué, il va être qualifié de tueur. Quelqu'un qui a volé, il va être qualifié de voleur. Ça implique que tous les êtres humains, donc, sont moralement responsables à partir du moment où ils choisissent activement de vivre selon cette nature. Alors, à partir de quel âge est-ce que ça se produit? Il n'y a pas de réponse exacte à cela. Hein, moi, j'ai déjà vu des enfants hein, de 3 ans avoir une bonne compréhension de l'Évangile et de se tourner vers le Seigneur, tandis que d'autres, ils sont plus à aller s'amuser, à taper dans un ballon et courir partout, etc. Mais comme je le rappelle aussi, c'est que cette nature pécheresse que nous avons tous, nous n'avons pas à enseigner le mal à un enfant pour qu'il pratique le mal. Il y a les choses qui viennent naturellement. Hein, la colère, le fait de frapper les autres, le fait de voler le jouet de l'autre, le fait de mordre, le fait de mentir même. Hein, toutes ces choses-là viennent naturellement et on n'a même pas besoin d'enseigner ça à nos enfants. D'ailleurs, même les parents qui pourraient être les plus moraux possibles, hein, ils sont horrifiés lorsqu'ils voient leur enfant agir de cette façon-là parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que nous, on les enseigne. Mais cette nature pécheresse, c'est quelque chose que nous avons tous depuis le moment où Adam et Ève, eh bien, se sont rebellés contre Dieu et nous ont transmis cette nature pécheresse. Mais alors, allons un peu plus loin. À ce moment-là, nourrissons. Hein, lorsqu'il n'y a pas cet âge de raison, est-ce qu'en est-il? Parce qu'on comprend bien que, oui, il y a cette nature pécheresse, mais ce qui nous rend coupable, c'est quand même l'acte du péché. C'est pas la nature pécheresse. Peut-être que c'est en prévision, hein, de ce que Dieu fait. De ce que Dieu, bah, Dieu étant omniscient, peut-être il savait ce que ses enfants feraient plus tard. On ne sait pas. Peut-être aussi que Dieu, eh bien, comme on le voit agir, hein, dans le livre de la Genèse au chapitre 6 avec le déluge, voyant que toutes les pensées des hommes se tournaient chaque jour et entièrement vers le mal, de se dire qu'il n'y a aucun moyen possible pour ces personnes de se repentir. Si Dieu savait que, immanquablement, dans le futur, l'une de ces personnes se repentirait, ou 10 de ces personnes se repentiraient, je pense qu'il n'aurait même pas envoyé le déluge. Mais Dieu étant omniscient, il savait exactement, il connaît toutes les infinies possibilités de nos choix, et il agit selon cela. Peut-être a-t-il agi ainsi? Sachant que ses enfants répéteraient exactement la même chose que leurs parents ont fait. Les enfants de Canaan auraient probablement aussi grandi hein, en se rappelant des religions hein, de leurs ancêtres, en se disant, comme beaucoup, hein, on voit beaucoup de cultures faire cela encore aujourd'hui, hein, se dire, ben, nous, notre culture, c'est ça, donc on va revenir vers telle pratique spirituelle. On rejette ceci parce que ça, c'est l'Occident, etc. Le christianisme, c'est pas l'Occident. Hein, Jésus, il est né au Moyen-Orient, il est né en Israël. Hein, c'est pas une religion occidentale. Mais voilà, beaucoup ont cette réflexion-là et reviennent hein, vers les pratiques ancestrales. Et j'imagine très bien que ces enfants de Canaan auraient certainement agi de la même manière. On peut se poser la question, même si hein, Israël avait préservé hein, la vie de ces enfants-là, est-ce que ces enfants-là auraient accepté de suivre l'Éternel? Est-ce que ces enfants-là n'auraient pas retenu quelque chose contre ce peuple nous a enlevés, nous a kidnappés, tué nos parents et machin, etc. Comment est-ce que on sait que la possibilité que l'un ou plusieurs de ces enfants agissent de manière fatale vis-à-vis du peuple d'Israël par rapport à cela, c'est une grande possibilité. Par rapport aux nourrissons, hein, si Dieu les a rappelés à lui avant qu'ils n'atteignent cet âge de raison, alors je crois que n'ayant pas eu l'occasion de pécher, d'agir selon cette nature pécheresse, Dieu les accepte dans sa présence. On a un aperçu de cette idée-là, hein, avec l'enfant que David a eu avec Bathsheba et qui, l'enfant était malade, il allait mourir. Et on voit dans les paroles de David de dire, qui disait que il sait qu'il rejoindrait son fils à sa mort à lui. Donc il y a cette notion que voilà, un nourrisson, un enfant qui n'a pas eu l'occasion de pratiquer le péché, d'agir selon cette nature pécheresse, que Dieu dans sa grâce, eh bien, il agisse aussi selon son amour et sa justice. On pourrait argumenter qu'il aurait été cruel pour Dieu de prendre la vie de tous les Cananéens, à l'exception des nourrissons et des enfants, et de les laisser, de les abandonner à leur triste sort. Mais je crois surtout que s'il faut nous rappeler avant tout, c'est que Dieu est souverain sur toute vie. Il est la vie. La vie lui appartient. Et il peut la reprendre quand il juge bon. Dieu et Dieu seul est celui qui donne la vie, qui prête la vie, qui a le droit, hein, de reprendre parce qu'il est souverain. Si il est mal pour nous d'ôter la vie selon la loi de Dieu, c'est parce qu'aucune vie ne nous appartient. Selon la loi mosaïque, les seuls situation où la vie pouvait être ôtée, c'était bon, en cas de guerre, comme on le voit dans ces récits, en cas de légitime défense, ou en cas de prononciation de peine capitale. Mais ça ne signifie pas que c'est un péché lorsque Dieu ôte la vie, parce que la vie, c'est lui. La vie lui appartient. Nous le comprenons intuitivement lorsque nous accusons une personne, une autorité qui ôte la vie à un être humain de se prendre pour Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est tenu à rien. Il n'est nullement tenu de prolonger la vie de qui que ce soit, même d'un seul jour. Pourtant, il le fait. Et il nous accorde cette grâce chaque jour de pouvoir vivre. Mais allez, 99,99% de la population, on vit notre vie comme si c'est normal que nous ayons la vie. Ceci dit, il est indéniable que cette question, hein, de la violence ordonnée par Dieu dans l'Ancien Testament est quelque chose de complexe, quelque chose de dur. Mais il nous faut toujours regarder à qui Dieu est dans son ensemble pour parvenir à cet équilibre de compréhension, cet équilibre de qui Dieu est, d'un Dieu saint, juste, aimant, gracieux, et qui ne peut pas renier qui il est. Il ne peut pas agir plus selon son amour que selon sa justice, ou selon sa justice plus que selon son amour. Dieu est saint et il est parfait en toutes choses. Il est essentiel de se rappeler que Dieu considère les choses dans une perspective éternelle également. Nous avons une vision qui est terrestre, une vision qui est temporelle, mais Dieu, il voit les choses, lui, dans une perspective éternelle. L'apôtre Paul nous enseigne que Dieu, oui, il est à la fois bon et sévère. Et s'il est vrai que la sainteté de Dieu exige que le péché soit puni, sa grâce et sa miséricorde demeurent offertes à ceux qui sont disposés à se repentir et à être sauvés. La destruction des Cananéens nous rappelle, oui, avec gravité, que si notre Dieu est miséricordieux et plein de grâce, il est aussi un Dieu de sainteté, un Dieu de justice et un Dieu de colère quand il voit l'injustice. L'horreur de toute cette mort violente que nous voyons dans l'Ancien Testament doit nous aussi nous rappeler l'horreur du péché et de ses conséquences. Le péché, c'est la destruction. Le péché mène à la mort. Nous retrouvons ces mêmes principes, même dans notre système judiciaire, où la crainte de poursuites pénales et d'application des peines servent comme moyen de dissuasion. Et lorsque l'on voit agir Dieu ainsi dans l'Ancien Testament, la haute estime de cette sainteté qui ressort à chaque fois qu'on lit ces passages-là, ça doit nous rappeler de quel Dieu il s'agit. Ça doit nous rappeler des conséquences dévastatrices du péché. Aujourd'hui, nous nous concentrons tellement sur l'amour et la grâce de Dieu que bien trop souvent, on oublie et on néglige la gravité du péché sous toutes ses formes. On se dit, ah, ce petit péché-là, ça va. Ah, je peux encore faire ce petit. Non, 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 non. Je crois que la lecture de l'Ancien Testament nous montre à quel point Dieu veut la sainteté dans la vie de ses enfants. Aujourd'hui, on justifie même la majorité des actions militaires des guerres passées comme ayant été nécessaires. On n'a peut-être pas, on n'approuve pas tout ce qui s'est produit pendant la guerre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu beaucoup d'horreurs, beaucoup d'exactions qui ont été commises dans diverses guerres, mais on comprend bien que la violence qui a été nécessaire lors de ces conflits, c'est aussi ce qui a permis à libérer des pays et à apporter la paix à des pays. L'assassinat du roi Aiglon, ainsi que tous les actes violents ayant permis la sécurité du peuple d'Israël sur le plan physique, sur le plan spirituel, la préservation du plan messianique hein, de Dieu, s'inscrit dans ce contexte-là, un contexte particulier, un contexte, oui, de conquête, de libération, une période de guerre, mais aussi de préservation par rapport au plan de Dieu à travers le peuple d'Israël. Et finalement, il convient de nous rappeler que aujourd'hui, parce que, comme on l'a vu en introduction, beaucoup d'athées vont utiliser ces passages-là pour critiquer le christianisme, n'est-ce pas? Convient de rappeler que, en Christ, nous ne sommes plus sous la jurisprudence de l'Ancienne Alliance. D'autant plus que dans l'Ancienne Alliance, la loi que nous y voyons, il y en avait plusieurs sortes. Il y avait une loi qui s'appliquait pour le peuple d'Israël, et seulement pour le peuple d'Israël. Il y avait une loi qui s'appliquait pour tout ce qui était des rites religieux, cérémoniels et spirituels. Mais il y avait surtout une loi qui, elle demeure. C'est la loi spirituelle. Hein, les commandements de Dieu sur tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Chose que nous retrouvons de nouveau enseignée dans le Nouveau Testament. D'accord? Et donc, ces lois spirituelles, celles que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, ce sont celles que nous continuons et que tout homme doit suivre. Mais pour ce qui est des lois qui étaient pour Israël et des lois qui étaient pour tout ce qui concernait le service spirituel, religieux pour Israël, ne nous concernent plus aujourd'hui. Bien qu'il s'agisse du même Dieu saint, du même Dieu de justice, du même Dieu d'amour, de grâce, même si, à ses yeux, nos péchés sont tout aussi répugnants. On a lu, on a parlé plutôt de ce verset dans Lévitique 18, 25. Où il parle du pays qui avait été souillé. Il dit, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Cette image vraiment de ce que Dieu veut qu'on rejette le péché, on retrouve cette même image aussi dans le Nouveau Testament. Apocalypse 3,16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il arrive un moment, je ne vais pas dire que la patience de Dieu s'arrête, mais à un moment donné, sa justice doit s'appliquer. Et quand on regarde donc à ces récits hein, du livre des Juges et à d'autres récits de l'Ancien Testament, alors rappelons-nous, un, est-ce que c'est quelque chose ordonné par Dieu? Et pour quelles raisons ont-elles été ordonnées par Dieu? Est-ce que c'est des agissements d'êtres humains, sans avoir consulté Dieu, qui ont agi selon leur bon sens ou capacité ou ce que vous voulez? Mais de faire cette différence, encore une fois, entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. Entre ce que des gens ont fait et entre ce que Dieu a demandé de faire. Et ça nous donne une perspective bien plus équilibrée de ces passages. On comprend l'atrocité et l'horreur de ces violences. Elles nous touchent, elles nous affectent. On comprend que des gens aient pu agir de cette manière-là sans forcément, eh bien, cautionner, approuver ce qu'ils ont fait, leur manière d'agir. Mais on comprend que aussi, à la fin, Dieu, malgré ces choix-là d'être humain, Dieu va quand même apporter la délivrance à travers ses juges. Et ça nous rappelle encore une fois une chose, comme on l'a vu avec ce Ehud, qui n'était pas forcément quelqu'un d'extraordinaire, qui, aux yeux des autres, aurait pu dire, ils auraient pu se dire, voilà, ça c'est notre héros, notre vaillant héros, c'est lui qui va. C'est pas. Dieu, il va nous employer malgré nos faiblesses. Dieu, il va aussi nous employer, même malgré nos mauvais choix. Dieu va nous employer même lorsque nous sommes éloignés de lui et que nous sommes tombés dans le péché. Dieu, il va, si son plan va quand même s'accomplir malgré ce que nous, on aura choisi de faire. Si le plan de Dieu était pour que ce peuple soit délivré, ça a été le cas. Est-ce que la manière dont Ehud a procédé était celle que Dieu approuvait? Je ne pense pas. Pas par rapport au mensonge que nous verrons la prochaine fois, Dieu voulant. Des questions?